Quatrième partie. La femme décousue. Chapitre 23. Agir ou mourir.
Comment savez-vous que je suis folle ? Demanda Alice.
Il faut croire que vous l'êtes, répondit le chat. Sinon, vous ne seriez pas venu ici.
Lewis Carroll.
Une pluie lourde et agressive cognait contre les vitres. Le tonnerre grondait presque en continu. À intervalles réguliers, les éclairs déchiraient les nuages charbonneux, figeant la ligne d'horizon des sapins avec la puissance d'un flash venu du ciel. La presqu'île au bout de laquelle était situé le Sebago Cottage Hospital s'avançait sur une quinzaine de kilomètres, dessinant au milieu du lac une large baie bordée de conifères. Concentré sur sa conduite, Gabriel roulait à une vitesse excessive. La route était jonchée de branches arrachées et de débris qui rendaient la circulation dangereuse. Le vent se déchaînait, hurlant dans les arbres, les jetant bas jusqu'à les faire céder, secouant la voiture comme pour freiner sa progression sur le bitume. À la dérobée, Alice jetait des coups d'œil à son téléphone. Sans surprise, le réseau était très instable, mais pas totalement hors service. Selon les endroits, les barres qui mesuraient le signal de téléphonie pouvaient être nombreuses ou indiquer au contraire de larges zones mortes sans aucune réception. Elle essayait de ne pas trembler. Elle devait gagner du temps. Tant que Gabriel ne se doutait pas qu'elle avait découvert son identité, elle était en sécurité. Sans armes, sur cette route déserte, elle ne pouvait rien tenter. Mais une fois qu'ils auraient atteint l'hôpital, elle pourrait agir. Il y aura du monde, de l'activité, des caméras de surveillance. Cette fois, Vaughn ne s'en tirera pas. La haine prenait le pas sur la peur. C'était insoutenable d'être assise à côté de l'assassin de son fils, de savoir son corps à quelques centimètres. Insoutenable aussi de s'être sentie si proche de lui, de lui avoir raconté une part de son intimité, d'avoir été émue par ses mensonges, de s'être laissée abuser de la sorte. Alice respira profondément. Elle essaya de raisonner, de trouver des réponses à des interrogations qui restaient entières. À quoi rimait ce jeu de pistes ? Quel était le plan de Vaughn ? Pourquoi ne l'avait-il pas tuée avant alors qu'elle était à sa merci depuis des heures ? La Shelby négocia un virage serré avant de piler brutalement. La foudre s'était abattue sur un grand pin blanc un peu en retrait de la route. L'intensité des précipitations avait dû tuer dans l'œuf le début d'incendie, mais l'arbre était encore fumant, fendu en deux, déchiqueté. Des débris d'écorce, des éclats de bois et des branches brûlées jonchaient la chaussée, bloquant la circulation.
« La poisse !» s'exclama Gabriel.
Il enclencha une vitesse et accéléra, bien décidé à forcer le passage. Une branche de bonne taille obstruait le couloir de circulation. La Shelby se déporta jusqu'à frôler le ravin et les roues se mirent à patiner dans la boue.
« Je vais essayer de dégager la route !» affirma Gabriel en serrant le frein à main.
Il sortit et claqua la portière en laissant le moteur tourner.
« Trop beau pour être vrai !»
Bien sûr, elle aurait pu tenter de s'enfuir dès la branche dégagée, mais ce n'était pas l'envie de fuir qui la guidait. C'était le besoin de savoir, et d'aller jusqu'au bout. Alice jeta un œil à son téléphone. Le signal était faible, 2 barres, mais pas inexistant. Mais qui prévenir ? Le 911 ? Son histoire était trop longue à expliquer. Son père ? Seymour ? Elle ne savait plus si elle pouvait leur faire confiance. Un de ses collègues de la crime ? Oui, c'était une bonne idée. Castelli ? Savignon ? Elle chercha leur numéro dans sa mémoire, mais elle fut incapable de retrouver leurs coordonnées, trop habituée à les appeler en passant par son répertoire. Elle ferma les yeux pour se concentrer. Le seul numéro qui lui vint à l'esprit fut celui d'Olivier Cruchy, son 6e de groupe. C'était mieux que rien. Elle composa le numéro dans l'urgence en tenant son appareil au niveau de son siège. Depuis la route, Gabriel lançait de nombreux coups d'œil en direction de la voiture. Mais le rideau de pluie était suffisamment épais pour protéger Alice de son regard. Elle mit le haut-parleur. Une sonnerie. 2. 3. Puis le message de la boîte vocale. Pas de chance. Alors qu'elle raccrochait sans laisser de message,
Une autre idée lui traversa l'esprit. Elle fouilla dans le sac besace à ses pieds et retrouva le couteau qu'elle avait volé dans le café du Bowery. La lame n'avait pas le tranchant d'un schlass à steak, mais la pointe était assez affûtée pour ne pas négliger l'objet. Elle le glissa dans sa manche droite au moment où Gabriel revenait vers la voiture.
« La route est dégagée, on peut y aller !»
lança-t-il, satisfait. Sebago Cottage Hospital, zone sécurisée. Veuillez ralentir. Éclairée d'une lumière blanche et précédée d'un panneau d'avertissement, la guérite en bois du poste de sécurité se voyait de loin. Un halo lumineux phosphorait dans la nuit, comme si une soucoupe volante s'était posée au milieu des champs de canneberge de Nouvelle-Angleterre. La Shelby emprunta la rampe qui menait au poste de garde, mais en arrivant devant la cabine, Alice et Gabriel constatèrent que celle-ci était vide. Gabriel s'arrêta devant la barrière métallique et baissa sa vitre.
« Hé, oh, y a quelqu'un ?»
cria-t-il pour couvrir le bruit de la tempête. Il sortit de la voiture et s'avança vers l'abri. La porte était restée ouverte et battait au vent. Il passa une tête dans l'embrasure et se décida à entrer. Pas de gardien. Il regarda le mur d'écran formé par les moniteurs des caméras de surveillance, puis le panneau électronique hérissé d'une série interminable de boutons et d'interrupteurs. Il actionna celui qui permettait de lever la barrière et rejoignit Alice dans la voiture.
« Cette absence de vigile, ce n'est pas bon signe, » dit-il en redémarrant la voiture. « Il a dû se passer quelque chose à l'intérieur. »
Tout en accélérant, Gabriel alluma une nouvelle cigarette. Ses mains tremblaient légèrement. La Shelby progressa dans une allée bordée de sapins et déboucha sur la vaste esplanade gravillonnée qui servait de parking à l'hôpital. Construit au bord du lac, l'établissement était aussi original qu'impressionnant. Sous la pluie battante, sa façade illuminée percée de fenêtres gothiques se détachait sur un rideau de nuages charbonneux. Le manoir en briques ocre avait gardé son cachet d'antan, mais de part et d'autre du bâtiment d'origine s'élevaient deux immenses tours modernes aux façades transparentes bleutées et aux toits géométriques à pans brisés. Une audacieuse passerelle de verre reliait les trois structures, traits d'union suspendus, raccrochant harmonieusement les wagons du passé et ceux du futur. Devant l'entrée principale, fixé sur un mât en aluminium, un panneau électronique à cristaux liquides diffusait des informations en temps réel. « Bonjour, nous sommes le mardi 15 octobre 2013, il est 23h57, heure des visites 10h-18h. Parking visiteur, P1-P2. Parking personnel, P3. » La Shelby ralentit. Alice fit glisser le couteau qu'elle avait camouflé le long de son avant-bras et serra son manche de toutes ses forces. « Maintenant ou jamais !» Elle sentit son cœur battre dans ses veines. Une montée d'adrénaline la fit frémir. Dans sa tête, des sensations contraires se confondaient. La peur, l'agressivité, la douleur surtout. Non, elle n'allait pas se contenter d'arrêter Vaughn. Elle allait le tuer. Seule solution radicale pour purger le monde de cet être malfaisant. Seule expiation envisageable pour venger la mort de Paul et celle de son fils. Une boule monta dans sa gorge. Des larmes mal contenues roulèrent sur ses joues. Maintenant ou jamais. Elle mit toute sa force pour frapper Gabriel avec le couteau, lui enfonçant la lame au niveau du grand pectoral. Elle sentit le muscle de l'épaule se déchirer. Cueilli par surprise, il poussa un hurlement et lâcha le volant. La voiture sortit du chemin de gravier pour aller percuter un muret. Un pneu éclata sous le choc et la Shelby s'immobilisa. Alice profita de la confusion pour s'emparer du Glock que Gabriel avait glissé dans sa ceinture. « Tu ne bouges plus !» cria Alice en pointant l'arme sur lui. Elle bondit hors du véhicule, vérifia la culasse du pistolet, leva le cran de sûreté et referma ses mains sur la crosse, les bras tendus, prête à faire feu. « Sors de la voiture !» Gabriel se baissa pour se protéger, mais resta dans la Shelby. La pluie tombait si fort qu'Alice ne parvenait pas à voir ce qu'il était en train de faire.
« Sors immédiatement !»
répéta-t-elle.
« Les mains en évidence !»
Enfin, la portière s'ouvrit lentement et Gabriel mit un pied hors de la voiture. Il avait retiré le couteau de son épaule.
et une longue traînée de sang coulait sur son pull.
« C'est fini, Vaughn !»
Malgré la pluie et l'obscurité, le regard de Gabriel, clair comme du cristal, parvenait à percer les ténèbres. Alice ressentit comme un vide au creux de son ventre. Depuis toutes ces années, elle n'avait jamais désiré autre chose. Tuer Vaughn de ses propres mains. Mais il était hors de question de l'éliminer avant d'avoir toutes les réponses. Elle sentit alors son téléphone vibrer dans la poche de sa veste. Sans lâcher Vaughn des yeux et tout en maintenant l'arme braquée sur lui, elle sortit son cellulaire. Le numéro de son 6e de groupe s'afficha sur l'écran.
« Crushy ? »
fit-elle en décrochant.
« Vous m'avez appelé, patron ?»
demanda une voix ensommeillée.
« Vous savez quelle heure il est ?»«
J'ai besoin de toi, Olivier. Est-ce que tu sais où est Seymour ?»«
Pas la moindre idée. Je suis en vacances en Bretagne chez les parents de ma femme depuis une semaine. »
« Qu'est-ce que tu racontes? On s'est vu hier au 36. »«
Patron, vous savez bien que c'est impossible. »«
Pourquoi ?»«
Patron, enfin... »«
Pourquoi ?»
s'énerva Alice. Un silence, puis une voix triste.
« Parce que ça fait 3 mois que vous êtes en arrêt maladie. 3 mois que vous n'avez plus mis les pieds à la crime. »
La réponse lui glaça le sang. Alice laissa tomber son téléphone sur le sol détrempé.
« Qu'est-ce qu'il raconte ?»
À travers la pluie, derrière Vaughn, son regard accrocha le panneau alphanumérique de l'hôpital. « Bonjour, nous sommes le mardi 15 octobre 2013. Il est 23h59. »
Il y avait une erreur sur ce panneau. On était le mardi 8 octobre, pas le 15.
Elle essuya la pluie qui coulait sur son visage. Ses oreilles bourdonnaient. La flamme rouge d'une fusée de détresse s'alluma dans son esprit comme un signal d'alerte. Depuis le début, ce n'était pas seulement Vaughn qu'elle traquait. C'était aussi un ennemi plus sournois et plus acharné. Elle-même. Puis, une série d'instantanés se succédèrent, à la manière d'extraits de films que l'on aurait montés bout à bout. Elle revit d'abord le jeune prêteur sur gage, croisé le matin même à Chinatown, en train de remonter le bouton poussoir de la montre de Paul.
« Je règle la date et l'heure »,
avait-il expliqué en faisant passer le chiffre du 8 au 15. Puis, la une du journal du jour qu'elle avait entreaperçue devant la porte de la maison de Caleb Dunn, elle aussi datée du 15 octobre, comme le courrier électronique de Franck Maréchal. Ces détails auxquels elle n'avait pas prêté attention.
Comment était-ce possible ?
Soudain, elle comprit. Son trou de mémoire ne couvrait pas juste une nuit, comme elle l'avait cru depuis le début. Il s'étendait au moins sur une semaine entière. Sur le visage d'Alice, des larmes de tristesse et de colère se mélangeaient à la pluie. Elle tenait toujours l'arme pointée sur Vaughn, mais tout son corps tremblait, ébranlé de secousses. Elle vacilla, lutta pour ne pas s'écrouler, serra de toutes ses forces la crosse de son arme. De nouveau, le rideau de nacre aux reflets irisés apparut dans son esprit, mais cette fois son bras fut assez long pour en attraper l'un des pans. Enfin, le voile se déchira pour de bon, permettant au souvenir de remonter à la surface. Les éclats de sa mémoire en charpie se recollèrent lentement. Une salve d'éclairs troua les ténèbres. Alice détourna la tête une fraction de seconde. Cet instant d'inattention lui fut fatal. Gabriel se rua sur elle et la fit basculer violemment sur le capot de la Shelby. Alice appuya sur la détente, mais le coup partit sans toucher sa cible. Son adversaire pesait sur elle de tout son poids, l'immobilisant avec son seul bras gauche. Un nouvel éclair transperça l'espace et embrasa l'horizon. Alice leva les yeux et aperçut la seringue que l'homme tenait dans sa main. Sa vision se déforma. Un goût de fer envahit sa bouche. Elle vit l'aiguille brillante s'abattre sur elle comme au ralenti, se plantant dans l'une des veines de son cou sans qu'elle puisse esquisser le moindre geste pour l'éviter. Gabriel appuya sur le piston pour injecter le liquide. Le sérum brûla le corps de la jeune femme comme une décharge électrique. La douleur la cisailla, déverrouillant brutalement la grille cadenassée de sa mémoire. Elle eut l'impression que tout son être s'enflammait et qu'une grenade dégoupillée
avait remplacé son cœur. Une lumière blanche l'aveugla. Ce qu'elle entrevit alors la terrifia. Puis, elle perdit connaissance.